Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire donc le texte qu'on nous propose pour ce jour. Marc a déjà cité un autre texte du jour, le psaume 146. Je vous invite à lire le texte de Marc, chapitre 12, les versets 38 à 44. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer le PowerPoint, donc vous allez devoir être très attentifs et m'écouter. Jésus leur disait, dans son enseignement, donc à ses disciples et à la foule autour de lui, il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. » Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. S'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup, vint aussi une pauvre veuve qui mit deux petites pièces de monnaie. Alors, il appela ses disciples et leur dit, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que l'Esprit du Seigneur sanctifie nos cœurs avec sa parole. Amen. Alors, dans ce texte que nous avons lu, il y a deux sections bien distinguées, bien délimitées, et qui se distingue facilement quand on en fait la lecture. Donc dans ce texte qu'on nous propose aujourd'hui, nous avons dans la première partie, c'est-à-dire les versets 38 à 40, un enseignement consacré aux scribes, ou du moins un avertissement consacré, aux disciples, donné aux disciples, contre les scribes, dont Jésus met en garde ses disciples. Et dans les versets 41 à 44, il nous est rapporté le récit de l'offrande d'une veuve, que Jésus semble particulièrement apprécier. Alors, dans les versets qui précèdent le paragraphe que nous avons lu, c'est-à-dire dans les versets 18 à 27, un sadducéen interroge Jésus au sujet de la résurrection. Les sadducéens, c'est un groupe de religieux, de spécialistes aussi de la loi. Mais on les compare souvent avec les pharisiens. Dans la particularité des sadducéens, c'est que eux, et ils ne croient pas à la résurrection, tandis que les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Donc, dans ces versets 18 à 27, un sadducéen interroge Jésus au sujet de la résurrection, justement. Et dans les versets 28 à 37, un scribe qui a assisté, justement, à cette discussion de Jésus et le sadducéen, lui aussi vient poser la question à Jésus parce qu'il a remarqué que Jésus a de l'intelligence et qu'il a su bien répondre au sadducéen. Donc il vient, peut-être était-il sincère, peut-être a-t-il fait sa démarche, est-il venu poser la question, il dit, mais tu as cloué le bec au sadducéen, mais je vais voir de quoi tu es capable, si tu peux, moi, me clouer aussi le bec comme tu l'as fait au sadducéen. Peut-être que c'est ça aussi. Mais en tout cas, au verset 34 de ce paragraphe, ce que Jésus lui a dit montre que probablement il devait être un peu sincère quand même, puisque Jésus lui dit aussi, tu as bien répondu, mais tu es loin du royaume. On reviendra dessus. Donc c'est après cette ambiance de joute oratoire avec deux spécialistes différents de la loi de Moïse que Jésus s'adresse à ses disciples qui eux aussi ont assisté aux deux confrontations. Alors si le Seigneur tient à instruire ses disciples après sa confrontation justement, c'est peut-être parce qu'il sait que les scribes, tout comme les sadducéens, sont des discoureurs sur la loi de Dieu, mais qui ne la mettent pas forcément en pratique. C'est ainsi que Jésus va faire le constat au verset 34 que le scribe connaît bien la loi, mais il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça peut être pris positivement, mais cela signifie en clair, bien que tu connaisses la loi, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Les scribes, tout comme d'ailleurs les pharisiens et les sadducéens, ne sont donc pas des modèles à suivre, et Jésus tient à avertir ses disciples à leur sujet. Gardez-vous des scribes, leur dit-il. Ce qui revient à dire, méfiez-vous des scribes. Alors, cela Jésus le dirait tout autant des autres catégories de spécialistes de la loi, parce qu'ils sont pareils. Ils savent y connaître la Bible, mais ils la mettent rarement en pratique. Donc Jésus dirait la même chose de tous. Mais par cette mise en garde, il conseille ses disciples de ne pas donner leur confiance à n'importe qui. Et ici dans le texte, il s'agit précisément des scribes. Méfiez-vous des scribes. Méfiez-vous de tous ceux-là qui, en apparence, veulent montrer qu'ils sont des religieux, mais qui, au fond, n'ont rien de religieux, ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ici, le texte concerne bien ces spécialistes, ces religieux, mais est-ce que nous ne pourrions pas prendre ces paroles de Jésus pour nous? Combien de fois, nous aussi, en apparence, nous montrons que nous sommes des religieux, que nous sommes chrétiens, nous appartenons au Christ, mais qu'au fond, dès que l'occasion se présente, nous faisons notre volonté à la place de la volonté de Jésus. Je jette la pierre peut-être aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, on pourrait rajouter aussi les zélotes. Bon, mais eux, on les connaît bien dans leurs ailes, donc laissons-les de côté. Mais je leur jette la pierre. Mais cette parole du Christ fait écho dans mon propre cœur. Je jette la pierre aux sadducéens, mais est-ce que moi-même, je ne leur ressemble pas? Est-ce que ma religion, ma foi, ne serait pas de temps en parfois quelque chose d'artificiel, de superficiel? Au fond, dès que l'occasion se présente, je fais ce que je veux. Donc nous devons écouter cette parole de Jésus-Christ. Nous devons la laisser nous interpeller sérieusement. Nous questionner sur notre propre spiritualité. Mais ici, puisque c'est Jésus qui le dit, nous pouvons nous permettre de leur jeter la pierre aux scribes. Alors je continue à les jeter les pierres. Qui sont-ils? Ces scribes. Les scribes sont des laïcs, contrairement aux pharisiens et aux sadducéens qui, eux, sont des religieux. Donc, ils sont des laïcs qui ont étudié la loi de Moïse et en sont devenus des spécialistes. Et à ce titre, ils ont le droit de commenter les textes bibliques et de prêcher. Donc, c'est en termes d'aujourd'hui, c'est des laïcs qui ont fait des études de théologie, qui sont même des docteurs en théologie. Il siège aussi au Sanhédrin, le Sanhédrin qui est le tribunal permanent de Jérusalem, qui se réunit au temple deux fois par semaine. Ce sont donc des docteurs de la loi, respectés par le peuple, et ce respect est celui que le peuple ressent pour la loi elle-même. Mais cette reconnaissance populaire peut bien monter à la tête de certains d'entre eux. En effet, dans les synagogues, ils ont des places réservées dans les premiers rangs. Ici, Jésus semble les prendre à partie de façon plus générale, parce qu'il est aussi conscient de leurs travers. Ils sont connaisseurs de la loi, ils sont respectés par le peuple, respect que le peuple a naturellement pour la loi, et du coup, les connaisseurs de la loi sont respectés. Ils sont tous là, mais en même temps, Jésus le sait très bien, c'est des gens qui ont des travers. Aux yeux de Jésus, les scribes sont répréhensibles pour plusieurs raisons qui sont mentionnées dans le texte. Ils aiment se promener avec de longues robes. Dieu soit loué, nous, pasteurs baptistes, nous n'en portons pas. Mais on n'est pas différents, je l'ai dit tout à l'heure. Ils aiment être salués sur les places publiques. Ils aiment avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Pour l'apparence, ils font de longues prières. Mais le plus grave, c'est qu'ils dévorent les biens des veuves. Par là, Jésus leur reproche de profiter de leur fonction. On peut supposer que les scribes donnant des consultations, les veuves leur demandaient probablement des conseils juridiques qui n'étaient pas gratuits. Ils dévorent les biens des veuves. Et Jésus dit, ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Ils aiment faire de longues prières pour être remarqués et adulés. De longues prières peut-être, mais ces prières pour l'apparence, ces prières affectées, ne sont évidemment pas de vraies prières, puisque ensuite, ils volent. Après les longues prières, ils volent les pauvres gens, notamment les veuves sans protection. Leurs prières ne les rapprochent donc pas de Dieu. Et Jésus dit, je crois que c'est clair dans le texte, il dit à ses disciples, ne leur ressemblez pas du tout. Ne leur ressemblez pas. C'est l'une de ces veuves spoliées, peut-être même méprisée, l'une de ces veuves abusées par ceux qui sont puissants dans la communauté des croyants de ce temps, c'est l'une de ces veuves que Jésus montre. Il la remarque et cette veuve lui donne l'occasion d'instruire les disciples au sujet des offrandes. Alors, vous, dans la salle, vous qui êtes de mon âge, vous avez certainement entendu Raymond DeVos et vous avez certainement apprécié ces jeux de mots de génie. Il a dit ceci dans l'une de ses sketchs. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter beaucoup de choses ou quelque chose. Alors, il y a dans le paragraphe consacré à la veuve quelque chose qui m'a fait penser au célèbre acteur que je viens de citer. Avec rien, la veuve a fait plus que ceux qui en avaient beaucoup. Avec rien, la veuve a fait plus que tous. Et Jésus est observateur. Il aime les choses et les êtres. Selon lui, les hommes réalités de la vie sont pleines de leçons pour qui sait les voir avec son cœur. C'est comme l'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Lire dans la nature des messages divins. Ce jour-là, Jésus est assis et regarde tranquillement comment les croyants apportent leurs pièces pour le trésor du temple. La veuve, comme toutes les veuves du pays, n'a que quelques petites pièces à donner. Elle vient et elle fait son don. Et Jésus a aimé. Il a aimé son geste parce que dans le monde biblique, les veuves sont des pauvres. Elles n'ont personne pour les protéger. Dans la loi d'ailleurs, elles sont associées aux étrangers. Marc nous l'a fait lire tout à l'heure dans le psaume 56 que nous avons récité ensemble. Donc la loi les considère, les associe aux étrangers, aux orphelins. Et nous savons que dans la première église, il y avait un service de secours pour les veuves, en Actes chapitre 6. Donc les veuves étaient des pauvres. Jésus appelle ses disciples, il les fait venir auprès de lui, comme pour leur communiquer un enseignement important. Et il dit « Amen ». Alors c'est comme ça que Jésus procède à chaque fois qu'il a quelque chose de fort, de puissant à dire. Il commence « Amen, Amen, je vous le dis ». Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres dans le trésor. Cette veuve qui a mis deux petites pièces d'argent. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que 2 centimes d'euros peuvent-ils valoir plus que 200 euros, par exemple? Nous pouvons deviner aisément dans l'appréciation de Jésus plusieurs explications à cela. D'abord, premièrement, tout d'abord, contrairement à tous ceux qui ont, donné, la veuve a donné malgré sa pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien que pauvre, elle avait quelque chose à donner à Dieu. Ce jour-là, elle a su faire pour Dieu une folie. Donner à Dieu sa dernière pièce. Donner à Dieu sa dernière assurance. S'en remettre à lui pour l'avenir et pour le pain d'aujourd'hui. Oui, cette veuve a donné malgré sa pauvreté. Deuxièmement, il a accepté de manquer pour que Dieu dans sa vie soit le premier servi. Elle a su affronter le risque de manquer, comme la veuve de Sarepta, qui fait d'ailleurs le texte, cet autre texte aussi fait partie des textes qui sont proposés aujourd'hui. Et si vous suivez la lecture de la Bible en 2 ans dans les groupes de maison, vous avez déjà lu ce texte sur la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Donc cette veuve a su affronter le risque de manquer, comme la veuve de Sarepta, qui a sacrifié pour Élie sa dernière poignée de farine. La veuve du temple, que Jésus montre en exemple, n'a pas eu peur de sa pauvreté. Elle n'a pas eu peur de sa pauvreté, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Elle ne s'est pas dit « De quoi vais-je avoir l'air ?» Venant après beaucoup de riches, tous ceux-là qui déposent peut-être des billets, de gros billets dans le tronc ou dans le trésor. À quoi vais-je avoir l'air? De quoi vais-je avoir l'air? Venant après eux. Moi qui vais déposer dans le trésor 2 petites pièces. Quasiment rien. Elle ne s'est pas dit cela. Elle ne s'est pas dit non plus, seuls les riches, ceux qui ont de quoi donner, peuvent donner. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire que les riches sont riches parce que justement ils ne donnent pas. Mais la veuve ici, elle ne s'est pas dit, c'est seulement ceux qui ont de quoi donner qui peuvent donner, c'est seulement ceux qui ont de l'argent qui peuvent donner, c'est seulement ceux qui sont riches, c'est eux qui sont intéressants. Moi, puisque je n'ai rien, et je ne peux pas me faire voir, je ne peux pas me permettre d'apparaître devant tout cela. La veuve n'a pas regardé le don des autres pour s'attrister sur son sort, ou peut-être même s'attrister des autres, ou se laisser attrister par, ou intimider par ce que les autres donnent. Elle n'a pas songé à comparer Elle l'a tout simplement donné. Elle l'a donné comme elle avait résolu dans son cœur, pour reprendre la formule de l'apôtre Paul. Chaque dimanche, mettez de côté ce que vous êtes résolu à donner pour l'œuvre. C'est Paul qui le dit. Eh bien, c'est ce que la veuve a fait. Peu importe la quantité d'argent que les gens déposent, donnent, moi, ce que je peux donner, c'est que 2 pièces, je les donne. Troisièmement, non seulement la veuve a su donner, bien que pauvre, on peut dire même qu'elle a donné sa pauvreté. Elle a donné sa pauvreté. Et c'est cela qui d'ailleurs a touché Jésus. La veuve sait que son offrande va la rendre plus pauvre encore. Mais sa foi toute simple et droite lui dit que Dieu l'aime ainsi, qu'elle n'a pas à devenir riche pour pouvoir donner. Dieu l'aime avec ce qu'elle a, le peu qu'elle a, et surtout qu'elle a osé donner tout ce qu'elle a. À la fin, je dirai un petit mot sur ce point-là. Dieu accueille avec joie l'offrande d'une veuve qui reste pauvre et qui accepte de le rester devant lui et devant les hommes. Jésus, dans ce don inconditionnel, retrouve l'un des réflexes de son propre cœur, car, écrit l'apôtre Paul, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. » On a le sentiment, dans ce récit sur la veuve, qu'elle fait ce que Jésus a fait, mais ça résonne comme le contraire. Jésus s'est appauvri pour que nous soyons riches, la veuve s'appauvrit pour que Dieu soit riche. Il y a tant de manières d'être pauvre. Dans ce texte, il est question de pauvreté financière ou matérielle, oui. Mais il y a tant de manières d'être pauvre, de se sentir démuni, démuni d'atouts pour faire sa route dans la vie, démuni de santé ou de grâce physique, démuni d'appui ou d'amitié, etc., etc. Il y a d'autres manières d'être pauvre. Et parce que toutes ces pauvretés nous déprécient à nos propres yeux, nous serions tentés d'en faire reproche aux autres et à Dieu. Et du coup, nous n'arriverions pas à glorifier Dieu dans notre vie. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas forcément comme... il ne s'intéresse pas forcément à ce que nous avons, à ce que nous possédons. Dieu s'intéresse à nous, à notre être. Il s'intéresse à nos personnes. Qui que nous soyons, quelle que soit notre condition de vie, Dieu nous aime et le don qu'il attend de nous, justement, c'est de venir, de nous donner, comme la pauvre veuve l'a fait. Ainsi, la veuve de notre texte nous montre le vrai chemin. Oui, nous pouvons être pauvres, mais si nous savons quoi faire de notre pauvreté, alors Dieu est glorifié. Savoir quoi faire de notre pauvreté, savoir quoi faire de ma pauvreté, c'est la reconnaître, la présenter au Seigneur, puis me mettre au travail, me mettre au service dès aujourd'hui, sans attendre, au service du royaume, tel que nous sommes, tel que Dieu nous voit et nous aime. Quatrièmement, une veuve qui nous invite à l'audace, finalement, à l'audace de la foi. Une veuve se présente pour faire son offrande. Elle est pauvre, le cas de toutes les veuves de son temps, rien d'exceptionnel. Elle est pauvre parce que, justement, elle n'avait pas droit à l'héritage de son mari. C'était comme ça à l'époque. C'est pour cela que L'Église s'est organisée, c'est pour ça que Dieu, la loi même, insiste à ce qu'on prenne soin des veuves. Parce qu'une fois qu'elles deviennent veuves, elles sont dépossédées de tout. Ce qui fait d'ailleurs le bonheur des spécialistes dont on a parlé tout à l'heure. Cette veuve s'avance, dépose 2 pièces 7 dans le tronc des trésors. Et c'est cette veuve que Jésus montre en modèle à ses disciples. Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour apprécier l'audace de la veuve, je disais que j'allais revenir sur ce point. Pour apprécier cette audace, il faut écouter le verset, ce dernier verset, il faut l'écouter dans une traduction plus littérale que j'aimerais vous donner. Car tous ont mis de leur abondance. Donc littéralement, c'est ce que dit le verset. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son besoin. Elle a mis de son besoin la totalité de ce qu'elle avait, et écoutez bien, sa vie tout entière. Enfin, si on devait traduire ce verset littéralement sans tenir compte des règles de la grammaire française, c'est comme ça qu'on traduirait. Bon, vous avez compris que c'est un peu compliqué. Mais ça nous aide à comprendre, à mesurer l'audace de cette veuve. Alors Jésus dit en fait, ce n'est pas seulement des piécettes qu'elle a données, c'est toute sa vie qu'elle a donnée. Et c'est ce qui est écrit dans le texte, en tout cas dans le texte grec. Oui, frères et sœurs, par amour pour Dieu et pour son œuvre, la veuve a déposé sa vie tout entière dans le panier à offrande, faisant confiance à Dieu pour son pain d'aujourd'hui et pour son pain de demain. C'est cela, son audace. Je crois que Jésus nous invite à avoir cette même audace pour ce qui concerne notre engagement. C'est un appel à la confiance en Dieu, tout simplement. Il ne s'agit pas de se dépouiller pour Dieu pour vivre une plus grande misère, mais la promesse qui est faite ici et qui résonne dans mon oreille, c'est que déposant toute sa vie, eh ben, Dieu prendra soin d'elle pour le pain d'aujourd'hui et pour le pain de demain, comme nous le chantons avec nos enfants, parce que Dieu est fidèle. La veuve du temple, comme la veuve de Sarepta, dont on a parlé tout à l'heure, sont toutes les deux veuves qui nous invitent à la foi. La foi en Dieu. Si nous disons que nous sommes chrétiens, ayons foi en Dieu. Écoutons ses conseils. Abandonnons nos vies entre ses mains. Et il agira. Il est fidèle. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui est le guide de notre foi. Cette parole qui nous invite à être conséquents avec la foi que nous professons. Que ton Esprit Saint nous aide à avoir cette confiance en toi, à avoir cette audace, l'audace de ces deux veuves dont ta parole nous parle. Dans le nom de Jésus. Amen.